Pictura Poésie présente un nouvel épisode de son podcast « Chambre avec vue ».
Bienvenue. Aujourd'hui, on va s'immerger dans une toile, enfin une toile vraiment iconique, pleine de charme et, on peut le dire, avec un petit parfum de scandale. L'escarpolette de Jean-Honoré Fragonard.
Ah oui, l'escarpolette. C'est une image qui évoque tout de suite le XVIIIe siècle français, le rococo, une certaine légèreté de vivre.
Exactement. C'est l'une des œuvres les plus célèbres de Fragonard, vraiment emblématique de son époque.
Tout à fait. Et elle capture bien l'esprit du temps. Cette sophistication, cette légèreté typique du rococo. Mais elle a aussi une complexité, une audace même, qui fascine encore aujourd'hui.
C'est ça. Et pour en parler, on s'appuie sur une analyse assez poussée qui s'appelle « L'escarpolette de Fragonard, audace et rococo ».
Voilà, l'idée c'est vraiment de creuser un peu, d'aller voir ce qui se cache derrière cette scène qui a l'air si joyeuse en surface.
On va regarder la mise en scène, décortiquer ce fameux style rococo. Chercher un peu les symboles cachés.
Et comprendre pourquoi on la considère comme un chef-d'œuvre.
Exactement. Alors, plongeons dans ce jardin un peu secret. On pourrait peut-être commencer par décrire la scène elle-même. Juste regarder ce qui se passe.
Oui, c'est un excellent point de départ. La composition visuelle, c'est vraiment la clé pour entrer dans l'univers de Fragonard ici.
Alors, au premier coup d'œil, ce qui frappe, c'est la joie, l'élan. Une jeune femme, superbe dans sa robe rose, qui s'envole sur une balançoire. Tout ça dans un jardin luxuriant, presque féerique. C'est l'image même de l'insouciance, on dirait.
C'est la première impression. Et c'est voulu, bien sûr. La lumière, les couleurs pastels, le mouvement. Tout est fait pour séduire l'œil. Mais très vite, on découvre qu'elle n'est pas seule.
Non, justement. C'est là que ça devient intéressant. Discrètement, dans la pénombre, à gauche, il y a un homme plus âgé qui pousse la balançoire.
Oui, on dit souvent que c'est un ecclésiastique, ou peut-être un mari un peu complice. Son rôle est ambigu, il est en retrait.
Oui, et sa position dans l'ombre, c'est pas anodin, j'imagine.
Non, pas du tout. Ça peut suggérer une forme de complicité silencieuse, ou au contraire, une ignorance peut-être feinte de ce qui se joue vraiment. C'est une présence qui interroge, en tout cas.
Et puis, alors là, le clou du spectacle. Presque caché dans les buissons, là, devant.
Oui.
Un jeune homme, l'amant, on suppose, est allongé. Et sa position, elle n'est pas innocente du tout. Hein.
Ah non, c'est clair. Il est parfaitement placé pour voir sous les jupes de la belle au moment précis où elle est au plus haut.
Son regard est clairement dirigé vers cet endroit précis. C'est assez explicite.
C'est là que l'audace principale, le piquant de la scène. Fragonard, il ne fait pas que suggérer une romance, non. Il met en image un moment de voyeurisme, un jeu érotique assez direct pour l'époque.
C'est ça, on parle de libertinage. C'est important de rappeler ce que ça voulait dire au XVIIIe siècle, peut-être.
Oui, bonne idée. Ce n'était pas juste la licence des mœurs, c'était aussi une forme de liberté d'esprit, un affranchissement des règles morales, religieuses, très strictes. C'était revendiqué dans certains cercles, aristocratiques, éclairés.
D'accord. Donc c'est pas juste coquin, c'est presque une affirmation d'une certaine liberté, même si c'est fait sur un ton léger et ludique.
Exactement.
L'analyse qu'on suit, elle dit d'ailleurs que ce regard, c'est un détail audacieux et sciemment mis en scène. C'est pas un hasard, c'est le cœur de l'intrigue.
Tout à fait. Et toute la composition, elle converge vers ce jeu de regard, n'est-ce pas, Evelyne ?
Oui, on dirait.
La structure du tableau est très dynamique. L'élan de la balançoire, ça crée une diagonale, une ligne de force qui traverse l'image. Elle relie visuellement l'homme dans l'ombre, la femme en plein vol et l'amant caché. La femme devient le pivot de cette triangulation amoureuse.
C'est fascinant.
Et cette construction, elle n'est pas juste là pour faire joli. Elle sert le récit, elle guide notre propre regard et d'une certaine manière, elle nous rend complices.
C'est fou comme la forme et le fond sont liés. Et justement, parlons de cette forme, de ce style rococo. Comment est-ce que l'escarpelette en est un exemple parfait ?
Elle en est l'incarnation, quasiment. D'abord par le thème, les fêtes galantes, les scènes d'intimité, les loisirs aristocratiques. C'est vraiment le cœur du répertoire rococo.
On est loin des grands sujets historiques ou religieux, là.
Ah oui, complètement. Place à la légèreté, au plaisir, à l'instant saisi. Et puis, il y a l'esthétique elle-même. Le rococo, ça aime les courbes, les formes sinueuses. Regardez les branches, les volutes de la robe. Tout ondule, tout est en mouvement.
Et les couleurs, ce rose éclatant, les verts lumineux, ce bleu poudré, c'est doux, presque sucré comme palette.
Tout à fait, c'est très caractéristique. Des couleurs claires appliquées avec une touche, comment dire, rapide, légère, presque aérienne. Ça donne une impression de fraîcheur, de spontanéité.
Oui, on sent ça.
Fragonard, c'est un maître pour ça. Sa touche vibrante fait scintiller la lumière, surtout sur la soie de la robe. L'atmosphère générale, c'est celle d'un monde idyllique, un jardin d'Éden pour aristocrates insouciants, quoi.
Mais alors, c'est là qu'il y a une tension, non, Evelyne ? Cette douceur, cette légèreté, ça contraste quand même pas mal avec le sous-entendu érotique, presque transgressif, de la scène. Le style rococo, c'est pas juste un bel emballage pour faire passer la pilule.
C'est un peu plus complexe. Ce qui est fascinant ici, c'est justement cette interaction. La légèreté, la préciosité, la beauté du cadre, ça ne sert pas qu'à masquer l'audace. Paradoxalement, ça la met en valeur.
Ah oui ? Comment ça ?
C'est comme si la perfection du décor rendait le jeu interdit encore plus savoureux. Le style rococo, c'est pas juste un habillage. Il participe à l'ironie, à l'esprit de la scène. C'est une esthétique du plaisir et le tableau l'illustre à tous les niveaux.
D'accord. Un écrin très raffiné pour une intrigue qui l'est un peu moins. Et cet esprit, on le retrouve aussi dans les détails, les symboles cachés.
Ah oui, tout à fait. Fragonard y parsème sa composition de petits éléments qui ajoutent du sens. Le plus connu, bien sûr, c'est la petite chaussure rose.
La mule.
Voilà, la mule qui s'échappe du pied de la jeune femme et qui vole dans les airs.
Un détail charmant, mais qui veut dire quelque chose de précis, j'imagine.
Oh que oui, c'est souvent vu comme une métaphore assez directe de la perte de contrôle, de l'abandon au désir.
Voire de la perte de l'innocence.
Oui, ou du moins de l'innocence affichée. C'est le désir qui s'échappe, qui n'est plus retenu par les convenances. C'est un symbole visuel très fort de cette transgression joyeuse au cœur du tableau.
D'accord, c'est comme un petit clin d'œil qui confirme ce qu'on sentait déjà. Et il y a d'autres symboles ?
Oui, plus discrets mais intéressants. Si on regarde bien en bas à droite, près de l'amant,
oui.
On voit un petit chien, un épagneul peut-être, qui aboie vers la scène.
Ah oui, je le vois. Il a l'air fâché.
Exactement. Et traditionnellement, le chien, c'est un symbole de fidélité. Surtout la fidélité conjugale.
Ah, donc sa présence ici...
Sa présence ici jappant vers ce jeu de séduction, c'est souvent interprété comme une façon ironique de dire que la fidélité est un peu bafouée, quoi. Ignorée.
Malin. Une petite touche d'esprit.
C'est ça. Une critique voilée ou juste un constat amusé des mœurs de l'époque.
Et le jardin lui-même, les statues, c'est pas juste un décor non plus, j'imagine.
Non, bien sûr que non. Le cadre végétal, très dense, très foisonnant, ça renforce l'idée d'un lieu secret propice à l'intimité cachée. Et les statues, on reconnaît souvent des putties, ces petits anges associés à Cupidon. Il y en a une bien visible au-dessus de l'amant qui semble mettre un doigt sur ses lèvres.
Ah oui.
Comme pour dire chute.
Exactement.
Une allusion directe au caractère secret de la liaison. Ces détails, ils sont pas là par hasard. Ils tissent tout un réseau de sens. Il confirme qu'on est dans un espace dédié à l'amour, au plaisir, mais un plaisir qui doit rester discret.
C'est incroyable comme tout est pensé. Ce qui nous amène à la question clé, au-delà de l'anecdote, des symboles. Qu'est-ce qui fait de l'escarpolette un chef-d'œuvre ? Pourquoi elle dépasse la simple scène galante ?
Alors, il y a plusieurs raisons, je pense. La première, on en a déjà un peu parlé, c'est l'audace du sujet. Le traiter avec cette franchise, même enrobé de grâce...
Il faut peut-être rappeler le contexte, oui. Représenter aussi ouvertement une scène de flirt poussée. Avec ce voyeurisme, c'était pas si courant, même dans une société réputée libre. Il y avait une façade de bienséance.
Tout à fait.
Et là, Fragonard y montre un peu l'envers du décor. Le jeu de séduction directe, avec humour, sans jugement moral apparent. C'est une forme de rupture, non ?
Une rupture assumée, oui. Et cette audace du thème, elle ne marcherait pas sans une maîtrise technique. Piou ! Éblouissante. Là, Fragonard est vraiment au sommet de son art.
C'est-à-dire ?
Sa touche est vive, enlevée, pleine d'énergie. Regardez comment il suggère le mouvement de la robe, le frémissement des feuilles, les jeux de lumière qui filtrent à travers les arbres.
Oui, c'est très vivant.
Il y a une virtuosité dans le rendu des textures. La soie qui brille, la douceur de la peau, l'écorce des arbres. Et on a cette impression d'instantané, comme si la scène était saisie sur le vif.
Pas une pose figée, quoi.
Pas du tout. Il arrive à capturer ce moment fugace, éphémère, avec une spontanéité incroyable. Cette fluidité, cette vivacité, ça donne une impression de vie intense. La lumière est cruciale aussi. Elle sculpte les formes, crée des zones d'ombre mystérieuses et des éclats lumineux. C'est une peinture qui respire.
Donc on a l'audace du sujet et la virtuosité technique. Est-ce qu'il y a autre chose qui explique sa place dans l'histoire de l'art ?
Oui. Et c'est peut-être la dimension la plus profonde. Si on prend un peu de recul, l'escarpolette, elle dépasse l'anecdote pour devenir le symbole d'une époque, d'une société.
Laquelle exactement ?
Celle de l'aristocratie française à la fin de l'Ancien Régime, juste avant la Révolution. Cette société qui mettait en avant l'art de vivre, l'élégance, le plaisir raffiné, une certaine insouciance aussi, du moins pour l'élite.
Une sorte de chant du cygne doré de cette aristocratie, un peu.
On peut le lire comme ça, oui. Le tableau capture cet esprit particulier, mélange de raffinement extrême et de liberté morale. Goût pour l'intrigue galante, le secret partagé. Ça devient un témoignage sur les mœurs, la sensibilité, l'esthétique d'un monde qui va bientôt disparaître. C'est pas juste une jolie image, c'est un document culturel et social d'une richesse incroyable.
Ça nous parle d'un rapport au désir, au corps, très différent, mais qui nous intrigue encore.
Exactement.
Alors, si on devait résumer, qu'est-ce qui fait la force de cette œuvre, sa pérennité ?
Je dirais que c'est cette combinaison rare de plusieurs choses. Une composition audacieuse et pleine d'esprit. Une technique picturale virtuose et légère, typique du meilleur rococo.
Oui.
Et puis cette capacité à incarner l'essence culturelle, sociale, d'un moment historique précis. C'est cette fusion entre l'artifice et la vérité d'une époque qui la rend si puissante, je crois.
C'est ça. L'alchimie parfaite entre l'audace, la maîtrise technique et la portée historique. Une peinture qui, sous ses airs de frivolité charmante, cache une profondeur inattendue. On y trouve l'apogée d'un style, une complexité symbolique qui invite à y revenir et surtout, une fenêtre fascinante sur un monde disparu, dont les jeux de séduction et les plaisirs cachés continue bizarrement de résonner en nous.
Tout à fait. L'œuvre touche à des thèmes qui traversent le temps, le désir, le jeu amoureux, la transgression des interdits, la beauté de l'instant. C'est sans doute pour ça qu'elle nous parle encore si directement.
Et ça pourrait nous amener à une dernière réflexion, peut-être. Au-delà du contexte historique de l'anecdote du XVIIIe siècle, qu'est-ce que la popularité de l'escarpolette, cette fascination qu'elle exerce toujours, nous dit sur notre propre regard aujourd'hui ?
Bonne question.
Sur notre attirance pour ces moments où les règles sont un peu contournées avec joie, où le désir s'exprime avec esprit, et sur comment l'art capture et sublime ces instants.
C'est une question très pertinente, oui. Peut-être que cette œuvre nous rappelle, simplement, que la séduction, le secret, la quête du plaisir, bah, ça fait partie de l'expérience humaine à travers les siècles. Et que l'art, quand il représente ces jeux complexes avec grâce et intelligence, il nous tend un miroir. Un miroir troublant, mais aussi assez délectable, de nos propres désirs, de nos ambiguïtés.
Une invitation à réfléchir sur cette danse éternelle entre l'apparence et la réalité, le permis et le défendu.
Exactement. Une danse que Fragonard a su capturer avec une maestria incomparable.